du vent.
Igor Strauss.
Bonjour à tous et bienvenue dans C'est pas du vent. Confronté à un manque de moyens pour protéger sa biodiversité exceptionnelle, Madagascar a transféré les droits de gestion des eaux et forêts aux communautés locales avec la loi Gelose de 1996. L'objectif de cette loi est de réorganiser les rapports entre les individus, les communautés locales et l'État afin d'améliorer la lutte contre la déforestation, le trafic de bois et d'animaux ou la corruption. Plus de 20 ans après, quels sont les résultats ? Pour le savoir, nous partons dans les hauts plateaux du district d'Arivonimam jusqu'au village de Marolef dans le Moyen-Ouest. À Madagascar, la gestion citoyenne des ressources naturelles. C'est un reportage de Mathias Virili.
C'est pas du vent sur RFI.
Je suis Bruno Ramamunsu, je suis le directeur de l'école supérieure des sciences agronomiques et je suis forestier de formation.
Quand on parcourt un peu les routes de Madagascar, on se rend très vite compte de l'ampleur de la déforestation à Madagascar, des vallées dénudées. Est-ce que vous, en tant que chercheur sur la thématique de la forêt notamment, vous pouvez nous dresser peut-être un état des lieux de la déforestation à Madagascar ?
Oui, effectivement, il y a eu une dégradation forestière importante depuis quelques années. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent pourquoi la dégradation persiste. La première cause de la dégradation, c'est l'inexistence en fait d'une politique publique qui est à même de résoudre les problèmes forestiers en général. Malgré le fait qu'il y a une politique forestière, on n'a pas jugé utile de mettre en place en fait des programmes ou des plans d'action qui permettent effectivement de mettre en œuvre des actions permettant de lutter contre la dégradation en général. À Madagascar, d'une façon générale, c'est un peu la loi de la jungle actuellement. Le trafic de produits forestiers à Madagascar, il dépasse largement l'appui des bailleurs internationaux au niveau du gouvernement. Et donc, le gouvernement, il va jouer en fait sur ces deux aspects-là.
Puisqu'au niveau national, c'est compliqué de mettre en place des politiques publiques, est-ce que ce n'est pas en partant des communautés locales, des Fukunul, que l'on peut essayer d'enrayer cette déforestation ?
Tout à fait, ça c'est une bonne base, il faut partir de la base et moi j'appelle ça le développement par l'identité, c'est-à-dire essayer de regarder ce qui marche et d'essayer de les capitaliser avant de les diffuser en général. Mais même à ce niveau-là, il y a aussi les jeux d'acteurs. Par exemple, si on évalue par exemple la gestion communautaire à Madagascar, le concept il est bon, il est très bon le concept de gestion communautaire. Mais là où ça n'a pas marché, c'est parce qu'on a juste transféré le jeu d'acteurs qui existe au niveau national, c'est-à-dire le jeu de pouvoir entre les gens. Dans les gestions communautaires, ils ont mis en place des comités de gestion. Et on a vu qu'en fait, les comités de gestion, ce sont des gens qui étaient un peu les nobles du village. Mais je pense qu'il est important qu'on puisse travailler aussi dans le renforcement des capacités. Or, le problème, c'est que le renforcement des capacités, c'est un investissement. Pas à court terme, c'est à long terme ça. Et malheureusement, à Madagascar, les gens ils sont trop focalisés sur l'argent. Il n'y a personne qui investit finalement. Il n'y a personne qui investit à Madagascar. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut partir des initiatives qui existent chez les paysans. Quand on leur demande si c'est pour Madagascar, ils disent non, c'est pas pour Madagascar, c'est pour nos enfants d'abord.
Moi, le côté de la veille, j'en reviens pour le président de l'Union Maïtchorifmante.
Son nom est Rabbi Joseph, président de l'Union Maïtch.
L'Union Maïtch est née en 2003.
L'Union Maïtch s'est créée en 2003. Il est composé de 22 comités de base membres de l'Union Maïtch. L'Union, c'est comme une plateforme qui réunit de ces 22 VOI là, dans le commun rural d'Arivumam 2.
Pourquoi la forêt a-t-elle besoin d'être protégée ?
Il y a plusieurs fonctions de la forêt tapis. Il y a d'abord, il est endémique à Madagascar. Il a protection de l'érosion du sol. Il a aussi une source de revenus, d'activité génératrice de revenus pour les vulnérables aussi.
Est-ce que le tapia fait partie des arbres qui sont le plus sujets à déforestation à Madagascar ?
misy mikapatra rairay mpangalatra le volera misy manimba zany misy manara rotra.
Oui, il y a des gens qui ont fait une exploitation illicite, mais c'est pour cette raison, par exemple, qu'on a fait un transfert à ces VO-là, ces comités de base, pour mieux coordonner et surveiller le forêt là.
Radio de France. Ah. Merci, monsieur. Merci.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Vous êtes le garde forestier de cet espace, de cette forêt?
Son travail est de s'occuper du gardiennage, de la surveillance, si tu coupes les tapias ou les arbres sans autorisation.
On est au milieu d'une forêt qui est à moitié boisée, à moitié en reboisement. Il y a des jeunes arbres là, c'est des jeunes eucalyptus. Est-ce que ça fait partie des arbres qui ont été reboisés par la communauté de base?
Ce sont des arbres à reboisement. Il a 2 ans.
Et le tapia, vous en replantez ici?
Chaque année, nous reboisons, c'est sur une superficie de 5 hectares.
Là, on voit un jeune arbre. Donc ça, c'est du tapia.
Tapia.
Il a quel âge cet arbre?
Cet arbre, c'est 2 ans. Parce qu'un an en pépinière, un an de reboisement, donc 2 ans.
Il va mettre combien de temps à grandir cet arbre?
100 ans pour 5 mètres de haut. Hein.
C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI.
Je suis Estelle Rarnefson, je suis le directeur exécutif de l'ONG SA. L'ONG SA est une ONG dans les thématiques de la gouvernance et appui à la décentralisation d'une part, et dans la thématique de redevabilité et mobilisation citoyenne d'autre part.
Parmi les initiatives que vous soutenez, il y en a une que j'ai rencontrée, l'Union Mezzo, ou l'Union Verte en français. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que l'ONG SA les accompagne?
On est entré en collaboration avec l'Union Mint parce qu'il y avait une demande de leur part de leur appuyer pour le renouvellement de transfert de gestion.
Qu'est-ce qu'un contrat de transfert?
Un contrat de transfert de gestion, c'est un contrat tripartite entre l'État, la commune et les communautés de base. Un contrat qui confie à ces communautés de base la prérogative de gérer cette ressource forestière qui auparavant était gérée par le service des eaux et forêts. Actuellement, je pense qu'il y a 500 communautés de base dans tout Madagascar qui gèrent des ressources forestières et lacustres. Donc c'est de là où est né le projet SAT qui vraiment s'occupe de la collaboration avec cette union de VOI arrivement pour la protection de la forêt tapis.
Par quoi elle passe cette gestion des ressources naturelles tapis?
Disons, il y a des processus, des dynamiques internes dans la gestion. Par exemple, amélioration des pare-feux, par exemple, enlèvement des espèces autres que les tapis qui risquent d'envahir la superficie de tapis et qui risquent d'endommager la forêt. Le reboisement. Ils ont une pépinière de tapis, donc une pépinière de forêt naturelle. Ça, c'est pas fréquent à Madagascar. Les gens, ils veulent d'abord du concret. Mais nous, on a dit, si on veut qu'on travaille ensemble, ce qui nous intéresse, c'est dans quelle mesure cette gestion de ressources peut aider à améliorer votre condition de vie. Quelle est votre finalité? Quelle est la manière de prendre des décisions? Est-ce qu'il y a une participation des citoyens? Donc tout ça, on a accompagné pour qu'il y ait une appropriation totale de la protection et la gestion des ressources par les communautés locales.
Est-ce que ces communautés sont prêtes à prendre le relais de manière autonome?
Je pense que oui, parce que ils ont constaté eux-mêmes que grâce à la préservation de la forêt tapis, ils ont des retombées positives. Par exemple, la vente de cocons, le tissage de verres à soie, la collecte des champignons. Tout ça contribue à l'amélioration de leur niveau de vie. Donc, ils trouvent un intérêt économique dans cette gestion des ressources. Et cet intérêt économique les oblige à préserver. Et s'ils ne le font pas, les autres ne vont pas se préoccuper à la préservation à leur place. Et ça, ils ont compris. L'aspect pérennisation aussi, c'est surtout leur interaction avec la commune et la région. Il y a des commissions mixtes où là, il y a les VOI qui jouent vraiment le rôle de force de proposition et de plaidoyer pour défendre leur intérêt, c'est-à-dire la préservation de la forêt de Tapi. Il y a quand même des bonnes initiatives. Tout n'est pas sombre parce que quand on entend ces histoires de trafic illicite, on comprend que les gens, ils pensent qu'il n'y a pas chose qui marche à Madagascar. Tout est corruption, tout est exploitation illicite. Mais là, au niveau local, il y a des initiatives. Et on espère qu'un jour, ça puisse remonter et changer le mode de gouvernance dans notre pays.
Parmi ces initiatives, il y a l'Union Somitan Batra, elle aussi membre du réseau Tafomirav. Après des heures de route en taxi-brousse, pendant lesquelles j'ai rencontré Ramora, mon guide et traducteur pour ces quelques jours, j'arrive à Menabé, à 60 km de Miandribadz, dans la campagne aride et parfois embrasée du Moyen-Ouest. Ici, les villageois ont pris en main la gestion de la forêt badique et des lacs environnants il y a plus de 10 ans. En 2015, leur initiative remportait le prix Équateur du Programme des Nations Unies pour le Développement afin de récompenser des solutions novatrices du Programme des Nations Unies pour le Développement pour lutter contre la pauvreté et les défis climatiques.
Vous écoutez C'est pas du vent sur les RFI, soit bibigué.
Bonjour Monsieur le Président.
Ah bonjour.
Vous parlez français?
Par mot à mot.
Par mot à mot.
Oui.
Ça marche. Donc le Président m'invite dans sa maison.
C'est moi, le Président de l'Union Somitan.
C'est lui, le Président de l'Association Somitan. Leur siège, c'est ici à Marlef.
Vous êtes combien habité ici?
Ils ont 29 000 habitants.
Ah oui, 29 000 habitants qui sont recensés dans les communes rurales de Manambine.
Et donc chacun de ces villages élit une personne qui est représentante et qui fait des comptes rendus sur la gestion des ressources naturelles pour l'Union Somitan Batra. C'est une sorte de garde forestier ou de gardien des ressources naturelles.
Ah oui. C'est des gardiens de ressources naturelles.
Pourquoi au final vous protégez ces aires autour de chez vous, que ce soit les lacs ou la forêt? Pourquoi est-ce que vous avez décidé de protéger tout ça?
Ils sont décidés de protéger tout parce qu'avant ils envoyaient leurs petits-enfants d'aller à la pêche. Une heure du temps suffit pour déjeuner ou dîner. Et là maintenant ça recommence à disparaître. Il a disparu le poisson et alors ils sont décidés de protéger ça parce qu'ils regardent l'avenir de leurs descendants. Et aussi, comme la forêt, ils ont du mal à construire des maisons parce que presque il n'y a plus d'arbres.
Félène Aragoutfo, secrétaire technique du réseau TAFMIAV, qui est le réseau de Fouknoul, gestionnaire de ressources naturelles à Madagascar.
Qu'est-ce qu'un Fouknoul et qu'est-ce que le réseau TAFMIAV par rapport au Fouknoul?
Un Fouknoul, c'est une communauté traditionnelle, c'est la communauté traditionnelle malagasse qui inclut tous les membres de la population d'un même terroir et qui sont liés par ce qu'on appelle les biens communs, qui est la culture locale et les ressources naturelles. Ils ont toujours été responsables dans la gestion et la gouvernance des ressources naturelles. Et TAFMIAV, donc, c'est une fédération de ces Fouknoul gestionnaires de ressources naturelles.
Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de l'Union Somitan Batra?
Alors l'Union Somitan Batra est un membre fondateur du réseau TAFMIAV. Il gère actuellement 150 hectares de lacs et 1400 90 hectares de forêt de badik, qui est une espèce de palmier endémique de Madagascar. Donc c'est vraiment une des réussites dans la gestion communautaire des ressources naturelles à Madagascar.
Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être président?
C'est un pêcheur.
On va où maintenant du coup?
Au lac de Marlif.
Ah oui, on le voit au loin là-bas. Il est assez grand, il fait combien à peu près, vous savez, de surface?
20 hectares de surface.
Et donc ça fait partie des lacs que vous protégez?
Oui, c'est un lac qui a beaucoup de pêcheurs.
Il y a quelqu'un sur une pirogue là-bas? C'est un pêcheur?
Un pêcheur, il y a un pêcheur sur la pirogue.
Je le vois battre une sorte de lance dans l'eau.
Ils pêchent avec des filets à tendre. Là, c'est ce qu'ils ont, c'est pas des lances. Ça, ce qu'on appelait kourou. C'est pour faire peur à les poissons. Et après, dès qu'ils s'enfouillent, ils sont attrapés par les filets.
Mais ce qu'ils regardent, le VOI, c'est quoi? C'est la taille du filet?
Ils limitent les filets. Parce qu'il y a des gens qui utilisent le filet des crevisses. Pour prendre les petites crevisses.
On voit que ça brûle là-bas au fond, qu'est-ce qui se passe?
C'est pour préparer la terre qu'on culture du frichement, ce qu'on appelle le baïbou.
Baïbou?
Baïbou.
Donc vous brûlez quoi pour y planter quoi?
Du maïs, du manioc, patates.
Et comment ça se fait que vous ayez besoin de brûler alors que vous avez quand même beaucoup d'espace autour de vous?
Chaque endroit, il y a des propriétaires. Ils partent à un endroit, ils restent là 5-6 ans, et après ils reviennent. Durant ce temps-là, l'arbre, il pousse, les petits arbres, ils poussent sur les champs. Et quand ils arrivent, ils défrichent tout pour recommencer encore les plantations.
Le vrai problème, c'est que la population vit des ressources naturelles en général. Alors, s'il ne peut pas avoir un niveau de vie acceptable comme ça, il y a toujours l'usage abusif des ressources. Comme ce qui est le cas en général de ce qui se passe dans la région, qu'il y en a des migrants qui viennent ici juste pour pratiquer le défrichement, pour saccager juste la forêt. Des gens qui, avec le peu d'instructions qu'elles ont, c'est beaucoup plus difficile de gérer. Mais c'est vraiment des vagues de migration qui abîment, qui rongent notre capital forestier dans la région de Ménapel.
Est-ce que vous sentez qu'il y a une conscience des habitants de l'aspect précieux et fini des ressources naturelles qui les entourent?
Ça dépend des cas, parce que dans des endroits, dans des localités où il y en a encore suffisamment de forêts, les hommes n'auraient jamais conscience de l'importance de l'existence de ces forêts-là. Mais une fois que comme en face, les ressources se font de plus en plus rares et des impacts se font sentir au niveau de la vie quotidienne, au niveau des besoins et surtout au niveau de leurs activités agricoles, par exemple. Les gens sont conscients de l'importance des ressources, mais souvent c'est trop tard. Après les dégâts, après les ravages, c'est trop tard. Il faut faire beaucoup d'efforts pour restaurer les forêts, ça c'est très, très coûteux. Il n'y a pas de technicien qui peut jusqu'à présent refaire vivre une forêt naturelle comme à l'état initial.
À Madagascar, la gestion citoyenne des ressources naturelles, c'était un reportage de Mathias Verilli, réalisé par François Porcheron. Restez avec nous, on se retrouve dans un peu plus de 3 minutes après le Flash Info. C'est pas du vent, à suivre. Non, non.